Gaëlle Malé-Jacques, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes directrice des investissements en charge de la gestion active chez Groupama Asset Management. On va parler avec vous notamment de ces marchés obligataires. On en est où finalement au milieu d'année 2017? Est-ce que pour l'instant les investisseurs sont assez confortables avec ce qui se passe?
Alors globalement, ce qui s'est passé sur les marchés obligataires, c'est des évolutions de taux qui ont un petit peu surpris sur cette première partie de l'année, surpris puisqu'ils ont plutôt été orientés à la baisse, jusqu'à ces derniers jours en tout cas, orientés à la baisse puisque favorisés par un changement de perception du marché quant à la politique que pouvait conduire Donald Trump aux États-Unis, surpris aussi par l'évolution des prix du pétrole qui ont entraîné un ralentissement et en tout cas une baisse des anticipations d'inflation. Donc finalement un marché de taux qui a plutôt connu un mouvement baissier sur les taux sur le premier semestre, à l'exception de ces derniers jours évidemment où on a vu à nouveau ce mouvement de hausse s'amorcer.
Il y avait eu, c'est vrai, beaucoup d'anticipation au moment de l'élection de Donald Trump sur l'après, avec des plans d'investissement. Bon, on s'aperçoit 6 mois après qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc, il y a un décalage finalement entre l'anticipation de beaucoup d'investisseurs. On parlait même de reflation à l'époque. On a mis ça de côté aujourd'hui.
En tout cas, le marché a corrigé toutes les attentes qu'il pouvait avoir par rapport à la politique économique du nouveau président américain. Alors peut-être qu'il en avait entendu trop, puisque pour l'instant ce n'était qu'un programme. Il nous paraît en tout cas aujourd'hui que le marché a largement enlevé ses anticipations quant à la politique réflationniste des États-Unis. Et on est dans un marché qui finalement devrait continuer à être guidé par les fondamentaux. Et enlever ces anticipations de politique économique aux États-Unis fait qu'aujourd'hui, on considère que les taux devraient malgré tout continuer à remonter tendanciellement.
On a aussi bien sûr la réserve fédérale américaine et discours qui ont pu être tenus au cours du premier semestre. On envisageait un certain nombre de hausses de taux pour 2017. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans les clous ou est-ce que là aussi ça bouge?
Alors globalement, la Réserve fédérale avait annoncé qu'elle ferait à travers ses notes 3 hausses de taux cette année. Pour l'instant, elle en a fait 2, une en mars, une en juin. Nous pensons qu'elle fera cette 3e hausse des taux qu'elle a annoncée à travers ses prévisions sur la deuxième partie de l'année. Donc nous sommes en phase avec les anticipations de la Fed en ce qui concerne la politique de remontée des taux.
On a alors en Europe peut-être une vision un peu différente. On est encore sur ce, quand on regarde les discours sur des taux qui vont rester bas, longtemps, très longtemps, on ne change pas encore de discours en Europe.
Alors, en Europe, le discours a été largement guidé par une politique monétaire extrêmement expansionniste de la part de la Banque centrale européenne et des chiffres d'inflation qui restaient très bas. Alors, en ce qui concerne les chiffres d'inflation, sans attendre une remontée très importante de l'inflation, on attend néanmoins une remontée tendancielle et progressive de l'inflation en zone euro. Et comme nous l'a rappelé M. Draghi lors de la dernière réunion de la Banque centrale, le risque déflationniste est derrière nous. Le deuxième point par rapport à l'évolution de la politique monétaire, c'est la Banque centrale annonce qu'elle va devenir moins accommodante dans un environnement de croissance qui s'améliore. Alors moins accommodante ne veut pas dire qu'elle va entraîner une politique monétaire restrictive, mais en tout cas, nous pensons qu'elle devrait ralentir ses achats de titres à partir du début de l'année prochaine et qu'elle va nous l'annoncer lors de la réunion du mois de septembre.
On a donc toujours ces banques centrales à la manœuvre. Quand on élargit un peu le spectre et qu'on va vers les pays émergents, on avait un certain nombre de craintes quand il y avait ces hausses de taux américaines qui devaient arriver par rapport au dollar notamment. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement sur ces marchés?
Alors, sur ces marchés, on voit bien déjà que les anticipations de hausse de taux aux États-Unis sont bien moins importante que ce que la Fed nous laisse entendre. Et donc finalement, cette crainte de remontée très importante des taux aux États-Unis n'est plus un risque majeur, en tout cas intégré dans les marchés. Donc finalement, dans un contexte où l'environnement économique des pays émergents, lui, a plutôt tendance à s'améliorer, c'est plutôt pour l'instant des zones géographiques qui bénéficient d'un environnement où finalement le dollar ne s'est pas fortement renchéri et au contraire a plutôt eu tendance à se désenchérir, où la Réserve fédérale, en tout cas le marché ne craint pas de très fortes hausses des taux, plus un environnement économique qui est plutôt favorable dans ces pays-là fait qu'un contexte plutôt porteur.
On a eu effectivement des améliorations macroéconomiques en Europe et quand on y regardait bien, on pouvait dire on était quasiment, on n'est pas à rougir des États-Unis sur la zone euro. Il y a un environnement global favorable, mais on ne retrouvera pas ce qu'on avait peut-être en tête avant ce qu'on avait comme type de croissance avant la crise de 2007.
Globalement, en tout cas, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est vraiment évidemment le cas aussi en zone euro. On n'attend pas évidemment de retour d'une croissance comme on a pu connaître les années précédentes, et en tout cas dans la décennie précédente. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement structurel qui reste encore difficile. On est toujours avec énormément de dettes, que ce soit au niveau public ou au niveau privé. Et donc cet environnement fait que structurellement, la croissance reste capée malgré tout par rapport à ce qu'on a pu connaître lors des décennies précédentes.
Il y a un risque qui est toujours dit compliqué à évaluer ou à mettre effectivement en face de soi, c'est risque géopolitique. On a tous les jours un certain nombre d'alertes sans savoir vraiment ce que ça peut donner. Est-ce qu'il faut l'avoir en tête et sur les marchés en se disant finalement oui, il peut arriver à tout moment?
Alors c'est un risque qui est évidemment sous-jacent et de façon perpétuelle, comme vous le dites, maintenant. Il faut évidemment l'avoir en tête. C'est aujourd'hui impossible à anticiper en termes d'impact sur les marchés. D'abord parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que ce risque viendra précisément et quelle sera son ampleur. Donc l'idée, c'est évidemment de l'avoir en toile de fond. Dans la construction de nos portefeuilles, évidemment, d'avoir fait partie des risques qui sont listés à surveiller. Mais comme tout risque géopolitique, il est très difficile, un, à timer dans le temps, et deux, en tout cas, à calculer son impact potentiel sur les marchés.
Quand on évalue, aujourd'hui, on voit les investisseurs, ils cherchent du rendement. Alors, sur le marché obligataire, c'est compliqué. Sur les marchés actions, il y en a, mais il y a une prise de risque supplémentaire. Comment, du coup, évolue l'allocation d'actifs dans ce contexte, un petit peu, on va dire, entre deux?
Alors, dans ce contexte entre deux, on est dans un environnement pour nous et dans un scénario économique qui reste malgré tout favorable. Il est favorable pour nous puisqu'il est synchrone entre les pays développés et les pays émergents. Il concerne l'intégralité des secteurs, que ce soit manufacturier, les services ou la construction. Et en plus, on pense que cet environnement économique est auto-entretenu par l'investissement. Donc sur cette toile de fond positive d'un point de vue fondamental, il est vrai qu'on a un niveau de cherté des actifs qui est relativement important. Malgré tout, on pense que dans les prochains trimestres, on devrait encore avoir une surperformance des actifs risqués, donc en premier lieu des actions, puis du crédit par rapport au taux et donc aux dettes souveraines. Et donc dans cet environnement, on favorise plutôt ces actifs risqués, mais compte tenu de la cherté des actifs, on a plutôt tendance à largement diversifier nos moteurs de performance de façon à limiter la concentration de nos risques.
Merci Gaëlle Malajac.
Merci.